La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour aujourd'hui avec Cyrielle Cohen.
Oui, on va s'intéresser aux achats. Vous savez, de temps en temps, on a envie d'acheter un produit, mais on aimerait bien savoir si vraiment c'est efficace, si ça marche.
C'est vrai.
Eh bien aujourd'hui, on a la solution pour le tester, Cyrielle.
Exactement, on est souvent confronté à l'envie d'acheter un produit qui coûte plus ou moins cher, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité d'essayer avant l'achat, ou du moins pas tout à fait concrètement. On peut trouver des vendeurs qui vont nous montrer un petit peu comment ça marche, mais on ne l'utilise pas. Alors, qui mieux que ceux qui l'ont déjà pour nous en parler et nous le faire tester par la même occasion pour nous faire notre propre opinion et avoir par la même occasion l'avis des utilisateurs? C'est votre idée, Geoffrey Vidal.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous sur
Europe 1.
Merci de
me recevoir.
Alors depuis 2013, vous êtes cofondateur de Demouze, une plateforme qui propose de mettre en relation les particuliers entre eux, c'est-à-dire les usagers du quotidien d'un produit et les futurs consommateurs, sous un système de géolocalisation pour essayer le produit de notre choix dans notre secteur. C'est mieux. Alors ça peut être une enceinte, un smartphone ou encore un ordinateur. On se doute de comment vous est venue l'idée, mais racontez-nous.
Oui, alors j'ai eu l'idée en 2010 en fait. Je sortais de mes études d'ingénieur en informatique et je venais d'avoir mon premier salaire d'ingénieur et je voulais m'acheter un vidéoprojecteur. Donc j'ai fait comme tout le monde à l'époque, j'ai été sur internet et en fonction des caractéristiques de mon logement, de mon budget, j'ai trouvé un modèle qui pourrait correspondre à mon futur achat. Et à l'époque, il y avait deux technologies sur les vidéoprojecteurs, il y avait Full HD, HD Ready, et je suis parti en magasin pour regarder la différence entre les deux technologies,
et
je me suis aperçu qu'il n'y avait absolument aucun vidéoprojecteur de branché en magasin. J'en parle à un de mes amis, et qui me dit, c'est exactement le modèle que j'ai acheté il y a un mois, passe chez moi à la maison, ce soir, amène à manger à boire, et on regardera un film sur mon vidéoprojecteur. Donc je me suis retrouvé chez lui, volet fermé, avec un home cinéma sur le canapé, et j'ai commandé le vidéoprojecteur en rentrant chez moi le soir.
Et vous avez donc créé Demouze qui regroupe aujourd'hui 100 000 utilisateurs, c'est assez énorme. Donc pour mieux comprendre concrètement, moi demain, si j'ai envie d'acheter le dernier téléphone en vogue, Samsung, Huawei, Samsung ou encore iPhone, je m'inscris sur votre plateforme en tant que testeur pour rencontrer un Demouze et ensuite comment ça se passe?
Alors en fait vous allez sur demouze.com et vous cherchez le produit que vous voulez essayer. Vous faites une demande de test auprès de la communauté, donc généralement il y a plusieurs personnes dans les grandes villes qui sont disponibles avec ce produit-là. Vous rentrez en contact avec ces démouseurs et vous prenez rendez-vous tout simplement. Donc si c'est par exemple un téléphone portable, vous pouvez très bien vous rejoindre dans un café, boire un café ensemble et vous allez pouvoir découvrir et prendre dans les mains le téléphone pour vous faire votre propre avis et discuter avec quelqu'un qui l'utilise tous les jours.
Ça marche sur combien de produits aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a un peu plus de 700 produits référencés et la gamme est assez large. À une époque, on avait même fait des matelas, par exemple.
Oui.
C'était assez cocasse.
Oui. Aller essayer de matelasser quelqu'un, oui. c'est original.
Mais c'était tout à fait ça et ça a très bien marché. Notamment des marques qui vendent que des matelas en ligne. Les gens sont assez réticents à commander un matelas qui coûte 800 euros sans s'asseoir dessus.
Et alors que l'on soit démouseur ou testeur, on peut gagner des points. Des flouzes, ce qui veut dire de l'argent en arabe. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe avec ces points-là qu'on peut cumuler.
Alors, notre plateforme, elle est communautaire avant tout. Donc, c'est une marketplace entre une offre et une demande. Et pour pouvoir faire tourner toute la machine, on récompense les personnes qui sont actives sur la plateforme. Donc, plus on fait de démonstrations, plus on ajoute de produits, plus on laisse de reviews aux autres utilisateurs, plus on gagne des flouzes. Qui vous permettent en fait d'obtenir des petites récompenses. Donc on a une mini boutique où on propose soit des goodies, des mousses, des t-shirts, des dessous de verre, soit des bons d'achat chez nos partenaires ou même des produits des fois.
Que dit notre coach de cette marketplace ?
Donc je m'interroge sur la façon dont vous gagnez de l'argent. Vous vendez aux marques le fait de mieux vendre, c'est ça ? Vous faites de l'apport d'affaires et vous prenez une commission ?
Alors en fait, on recrute des démonstrateurs pour le compte des marques et donc c'est comme ça qu'on se rémunère.
Très bien.
Vous êtes combien aujourd'hui chez Demouze ?
On est une dizaine.
Une dizaine ? Quel type de profil ?
Un peu de tout. Il y a des informaticiens, il y a des commerciaux, et puis il y a aussi de la gestion client et la gestion communautaire aussi, qui est une grosse partie de notre activité.
J'ai vu que ça recrutait aussi, vous cherchez du monde, donc s'il y a des gens qui veulent rejoindre l'aventure, vous avez 5 ou 6 postes ouverts ?
Ouais. Tout à fait.
Cyrielle,
est-ce que vous avez des partenariats avec des très grandes marques et est-ce que sur votre site internet, parce que la question va se poser, notamment moi je l'ai vu sur internet mais je crois que ça a changé, est-ce qu'on peut acheter via votre plateforme des produits via les bons d'achat que vous proposez ?
Non, alors on ne vend pas directement. Nous, on rémunère avec des bons d'achat chez nos partenaires. Donc si on prend par exemple Google avec qui on travaille actuellement, vous pouvez aller essayer un des produits Google chez un démonstrateur. Et ensuite, vous obtenez, après la démonstration, si vous êtes intéressé pour faire, effectuer un achat, vous avez moins 20% chez nos partenaires.
Les bons d'achat, c'est vous qui les négociez, c'est eux qui vous les proposent, comment ça se passe ?
Ça se négocie, avec à la fois le partenaire et la marque, pour savoir à peu près respecter, que tout le monde puisse s'y retrouver. Quoi.
Juste pour les auditeurs, les auditrices, c'est un modèle qui se rapproche de celui de Tupperware, c'est la version digitale. Vous pouvez nous dire en deux mots comment ça vous a inspiré et qu'est-ce que vous en retirez ?
En fait, c'est tout à fait notre vision chez Demouze. Notre objectif long terme, c'est de pouvoir en fait proposer une solution similaire à ce que fait Tupperware, avec des réunions Tupperware, mais disponible pour tous les produits dans n'importe quel contexte, que ce soit les voitures, les robots de cuisine, les smartphones et les objets connectés. L'idée, c'est vraiment de se dire, je peux tester le produit dans de bonnes conditions, une enceinte connectée qui est dans un appartement qui reflète la surface de mon appartement, avec mon téléphone et ma musique. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer ça à n'importe quelle marque, assez facilement.
Ça vous arrive de tomber sur quelqu'un qui vous demande un produit que vous n'avez pas ?
Ça arrive, mais on le note très précieusement et on fait tout pour aller après démarcher la marque.
Ça s'appelle Demouze, c'est donc l'occasion pour vous d'essayer un produit avant de l'acheter. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci de m'avoir reçu.
Sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous, on va s'intéresser à l'art avec vous. 3921 Twitter, on vous attend. Est-il en train de se démocratiser ? De quels outils disposons-nous pour mieux le découvrir sous toutes ses formes ? Les réponses à partir de 13h sur Europe 1.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Et aujourd'hui, elle fait bouger le monde de l'art. Et on compte sur vous, bien sûr, pour nous dire si vous trouvez que c'est un milieu trop élitiste ou au contraire, si vous aimez collectionner, Céline.
Oui, écrivez-nous sur Twitter, @Europe 1. Vous pouvez aussi nous appeler au 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
Allez au musée, si ça se démocratise, venez, hein, vous témoignez, vous nous dites ce que vous aimez faire. Pour ça, il suffit effectivement soit de composer le numéro, soit de nous envoyer un petit message. Et vous allez voir que pour que l'art soit partout accessible, il y a en France de très très bonnes idées. Bonjour Leïla Zerouki.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable de la collection Art Delivery proposée par l'École des Beaux-Arts à Nantes.
Oui.
Art Delivery, c'est, si je résume, la possibilité finalement d'avoir chez soi une œuvre qu'on loue et que vous allez nous faire livrer, c'est ça ?
Tout à fait.
Comment ça marche ? Racontez-moi, comment vous est venue l'idée déjà ?
Alors, elle est venue simplement parce que cette collection existait déjà, hein, c'était l'Artothèque de
L'Artothèque,
Nantes.
L'Artothèque, oui.
Donc on a intégré une école d'art, et ce qui n'est pas anodin, parce qu'il y a plein de choses qui sont...
L'Artothèque qui remonte aux années 80, 86 je crois.
86 celle-ci. Hein, à Nantes. Il y en a, les artothèques en général démarrent en 80, oui, en France. Et donc, on a intégré une école d'art en 2010. Hein, donc, ce n'est pas anodin parce que justement, c'est un vivier de compétences par rapport à notre proposition. Donc, on a une collection qui fait 515 œuvres qui est empruntable sur site internet. Maintenant, depuis 2018, hein, on a changé le processus d'emprunt, donc il y a à peu près 625 œuvres qui sont dans la collection et 515 empruntables.
Et on en voit quelques-unes sur europe1.fr pendant qu'on vous écoute, évidemment.
On achète des œuvres tous les ans, et donc l'idée, c'est d'aller chez les gens, de leur amener les œuvres qu'ils choisissent sur internet, sur le site de la collection Art Delivery, qu'ils payent en ligne, puisque c'est quand même une location qui est moindre, c'est 30 euros pour un particulier. Et on va chez eux, on accroche l'œuvre, donc il y a un contact avec la personne qui est chargée de ces livraisons, qui connaît les œuvres, et voilà, c'est assez simple. Hein.
Oui, donc c'est assez simple, c'est de la location d'œuvres.
Oui, on peut dire ça.
Ce qui m'a étonné, c'est que je suis particulier, j'ai envie d'avoir une toile ou une autre œuvre accrochée chez moi. Ça me coûte finalement pas si cher que ça.
Non, ça vous coûte
30
rien.
30 euros.
30 euros pour 3 mois, ça fait 10 euros par mois, on va dire. Comme ça.
Comment est-ce que vous arrivez à avoir des tarifs aussi bas ?
Alors, on est une institution publique, hein, on n'est pas une entreprise privée, donc ça fait partie d'une institution, on est deux à s'en occuper, ce qui est peu. Moi, je fais aussi autre chose. Donc, je dirais que les coûts sont partagés dans l'institution. On a aussi toute une équipe De logistique, de la comptabilité, tout ça, ça fait pas partie d'une entité spécifique Art Delivery. C'est la collection, elle fait partie de l'institution.
On est d'accord pour dire qu'une œuvre qu'on installe chez soi, c'est tout un protocole à suivre. Hein. Ça ne s'installe pas comme ça, ça ne s'accroche pas comme ça. Mm-hmm. Comment est-ce que vous faites ? Il y a des assurances, des précautions aussi, suivant ce que c'est ?
Alors, les œuvres sont assurées. Oui, nous, on assure les œuvres. Et il y a aussi des contraintes à respecter. Hein, on ne met pas les œuvres face au soleil ni aux rayons de la lune. Voilà, ça peut casser, parce qu'elles sont toutes encadrées, principalement. Il y a quand même on a des vidéos, des photographies et des estampes. Donc effectivement, il y a un protocole à respecter que la personne reçoit quand elle signe sur Internet son contrat et qu'elle s'engage à respecter.
Combien de personnes vous ont déjà suivi dans cette aventure ?
Alors, depuis 2018 qu'on a ouvert ça, c'est-à-dire depuis mai 2018, on est à 192.
192. Ce système est donc assez récent, hein, puisque vous dites depuis l'année dernière où on procède comme ça. Ça marche, on l'a dit, pour les particuliers, ça peut aussi marcher pour un événement ou pour des entreprises ?
Tout à fait.
Pour le coup, les tarifs changent.
Oui, ils sont plus élevés. Mais ça peut marcher pour un événement. Donc ça, c'est un contact, évidemment, on s'entend avec... pour un événement, ce sera plutôt une entreprise ou une collectivité, pour le choix des œuvres. Et ça peut tout à fait se faire. Les entreprises, ils peuvent en prendre jusqu'à 10. Et on travaille beaucoup avec des écoles aussi, notamment les collèges.
Notre coach, Jean Moreau.
Comme dans toute place de marché, il y a un enjeu d'offre et de demande. Est-ce que vous, votre stress du moment, c'est plus d'avoir davantage d'offres à proposer aux locataires ou de trouver des locataires par rapport à une offre qu'ils ne trouvent pas encore?
Alors, je dirais que c'est d'être un peu plus connu, même si ça a déjà une histoire. C'est effectivement peut-être d'avoir un peu plus de demandes de location. Mais c'est aussi faire connaître beaucoup plus les artistes. C'est quand même l'enjeu principal.
Les artistes principal, contemporains, notamment.
Voilà. C'est l'enjeu principal de la collection, c'est de diffuser l'art au mieux et au plus près des gens. Et donc, pour nous, c'est pour ça qu'on achète les œuvres aussi. C'est un enjeu économique pour eux et on participe à ça. C'est très important. Donc, plus c'est vu, plus c'est loué, mieux c'est pour eux.
Est-ce que les gens qui font ces demandes pour avoir ces œuvres chez eux, ensuite font la démarche d'achat ?
Ça arrive. Ça arrive. Alors nous, vu justement notre situation particulière dans une école d'art, on a la possibilité d'avoir accès à des ateliers et on produit aussi des estampes avec des artistes qu'on peut vendre sous forme de dépôt, parce qu'on ne vend pas directement. Et donc ça, c'est des œuvres qui sont aussi, je dirais, achetables par le public.
Alors si on est ensemble aujourd'hui dans le studio d'Europe 1, c'est parce qu'aujourd'hui ouvre au grand public la FIAC, qui est un événement international. Vous nous rappelez, Cyrielle, ce que c'est que la FIAC ?
Eh bien, c'est une foire internationale d'art contemporain, ce qui veut dire des œuvres réalisées après 1945. Elle a lieu chaque année depuis 1974, généralement sur Paris et surtout en octobre. On peut y découvrir des créations françaises, mais aussi des créations internationales. Et donc, cela est découpé en quatre temps. Bien sûr, vous pouvez trouver tous les programmes de la FIAC avec des conférences, performances, projections de films au sein du Grand Palais, mais aussi la FIAC Galerie qui présente une sélection composée de galeries d'art moderne, d'art contemporain et de design parmi les plus emblématiques de la scène internationale, ce qui va donc du meilleur de la création artistique depuis le début du XXe siècle aux tendances les plus émergentes, et puis Project qui propose des sculptures et des installations à l'intérieur et aux abords du Grand Palais. Puisqu'on parle d'extérieur, sachez que la FIAC propose aussi le Hors les Murs qui distille un parcours d'œuvres dans différents lieux emblématiques de Paris.
On reste ensemble et on continue à parler art aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h17.
Europe 1.
On peut avoir un coup de cœur pour une œuvre, mais ne pas savoir qui l'a créée. Artifexio va résoudre le problème grâce à son appli. A tout de suite.
À l'occasion de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain qui démarre aujourd'hui à Paris, on parle d'art dans la France bouge, l'art accessible à tous. Est-ce que vous trouvez que c'est déjà le cas ? Comment appréhendez-vous le monde de l'art ? Le trouvez-vous trop élitiste ? Dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1 ou appelez-nous au 3921. Raphaël, ça ne démarre pas aujourd'hui ?
Non, c'est ouvert au grand public aujourd'hui.
D'accord, ben voilà.
C'est pour ça.
Fallait le préciser.
Mais vous avez raison, ça, c'est en cours.
Oui, c'est en cours, mais c'est ouvert au grand public à partir d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que vous et moi, on peut y aller. Voilà, à partir formidable. D'aujourd'hui. Pour la musique, je suppose, Céline, que vous connaissez le Shazam, évidemment.
Oui, hein, bien sûr.
Pour reconnaître un morceau, vous entendez à la radio, vous dites ah, j'adore, mais je ne sais pas qui chante et je n'ai pas retenu le titre. Eh bien, aujourd'hui, on a un peu la même chose pour les œuvres d'art, pour connaître l'artiste ou l'endroit où on peut trouver l'œuvre. Bonjour, Carole Brassier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé Artifexio. Vous dites effectivement, on est le Shazam de l'art contemporain. Contemporain, c'est-à-dire toujours post-45.
Tout à fait.
Comment est-ce que vous est venue l'idée d'Artifexio, justement, vous inspirant de la musique ?
Pas du tout. En fait, j'ai cherché le nom d'un artiste à partir d'une photo, d'une sculpture qui m'était chère. Et en recherchant cette œuvre sur des bases de données existantes ou sur Internet, je n'y suis malheureusement pas arrivée. Et donc là, j'ai constaté également que j'avais beaucoup de photos d'œuvres d'art dans mon téléphone. Et de là est venue l'idée de créer Artifexio qui permet de dévoiler l'artiste à partir d'une photo d'une œuvre d'art.
Et dans votre téléphone, dans cette collection, vous arriviez, vous, à vous souvenir de toutes les artistes que vous aviez photographiés, de toutes les œuvres ?
Pas du tout. J'ai aucune mémoire. Enfin, j'ai une petite mémoire. Je peux savoir quels films j'ai vus, quels acteurs les plus connus, mais malheureusement les moins connus, je ne les connais pas. Ou alors certains artistes très connus dont les noms sont imprononçables, j'arrive pas non plus à m'en souvenir. Donc l'application permet également ça, elle permet de stocker l'information et d'être un peu la mémoire virtuelle de ces photos prises en fait.
Donc vous créez cette appli, comment ça marche ? Je télécharge et quand je prends l'œuvre en photo par exemple, elle me dit qui l'a faite, à quel moment, éventuellement où je peux la trouver ?
Oui. En partie. Aujourd'hui, l'application existe uniquement sur l'App Store. Donc, c'est disponible pour iPhone uniquement. On est en train de faire le développement pour les smartphones Android. On
télécharge. Oui, parce que c'est assez récent. Vous êtes lancé depuis juillet 2018, c'est ça ? Mais ça fonctionne véritablement depuis cet été ?
Voilà, depuis juin. Tout à fait. On télécharge l'application et là, à partir de cette application, ça fonctionne là maintenant comme Shazam. On prend en photo une œuvre d'art. Et nous vous fournissons donc le nom de l'artiste, soit avec certitude, donc c'est-à-dire qu'on vous fournit un résultat, soit on n'est pas sûr du tout, on ne vous fournit pas de résultat et on vous permet d'enregistrer tout de même l'œuvre et pourquoi pas d'y inscrire le nom de l'artiste, parce que si vous êtes à la FIAC ou dans une galerie d'art, vous êtes en mesure d'enregistrer vous-même l'œuvre et nous la modérons, nous l'ajoutons. Et en dernier lieu, si on a un doute, on vous propose des artistes ou des œuvres similaires. Par exemple, si vous prenez un artiste connu, Banksy, on va vous proposer des artistes similaires qui vous permettent de découvrir justement des artistes contemporains émergents également.
Alors ça nous amène à la question, à mon avis, que Jean a très envie de poser.
La question qui me brûle les lèvres, c'est une base de données du coup que vous avez constituée vous-même, qui est propriétaire, ou vous branchez sur des bases de données ouvertes, où il y a déjà un travail de recensement de toutes les œuvres qui ont été faites depuis plusieurs années ?
On a constitué cette base de données nous-mêmes, à partir de bases de données existantes, dont on a fait soit l'acquisition, soit qu'on nous a offert. Mais également, les utilisateurs enrichissent cette base de données, ainsi que les galeries d'art.
Donc il y a du collaboratif.
Voilà, tout à fait.
Vous sourcez toutes les œuvres, vous avez des catalogues aussi à votre disposition pour justement, au fur et à mesure, ajouter.
On a de plus en plus de demandes, oui, d'ajout d'œuvres d'art, parce qu'on a l'ambition d'être le Shazam de l'art, mais aujourd'hui, on n'est pas encore le Shazam de l'art.
Ça va venir.
Oui, tout à fait, on l'espère. En tout cas, on a fait un produit, une application qui va permettre de l'être. Et aujourd'hui, tous les artistes nous demandent à être référencés. Enfin, je dis tous, beaucoup d'artistes nous demandent à être référencés et les galeries d'art également nous demandent d'enregistrer les artistes puisque notre application, elle permet que l'offre et la demande se rejoignent puisqu'on va dire également où est-ce qu'on peut acheter des œuvres d'art de cet artiste.
On peut aussi aller plus loin dans cette appli. On se dit, tiens, cet artiste, j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est un peu trop cher. On peut aller voir ce qu'il fait d'autre et chercher un produit qui serait abordable.
Tout à fait. L'application, elle a pour ambition de vous permettre d'acquérir une œuvre en fonction de votre budget. Par exemple, si vous prenez une photo d'une œuvre d'un artiste que vous aimez bien, vous allez pouvoir consulter son catalogue et voir où vous pouvez acheter une œuvre de cet artiste en ligne, enfin depuis l'application en tout cas.
C'est vrai que, Cyrielle, on peut le dire et on le voit hein, aujourd'hui, le marché de l'art en ligne est vraiment en plein développement.
Exactement, c'est une pratique qui se démocratise. Plus 15%, c'est le pourcentage d'augmentation des ventes d'art en ligne par an et dans le monde. Les ventes d'art en ligne représentent aujourd'hui près de 4 milliards de dollars par an et dans le monde. Et 88% des nouveaux acheteurs n'avaient jamais acquis une œuvre d'art avant de le faire en ligne. Donc l'art devient vraiment accessible.
Et c'est qui, dites-moi, l'amateur d'art? Vous avez le portrait type ou pas?
Alors, le portrait de l'amateur d'art, vous en avez plusieurs. Vous avez celui de l'amateur d'art en général. Alors, selon une enquête BVA, l'âge moyen d'un amateur d'art est de 35-49 ans, cadre supérieur ou exerçant une profession intellectuelle et gagnant bien sa vie. Ce qui veut dire un revenu du foyer supérieur à 3500 euros par mois et habitant en zone urbaine ou périurbaine. Mais aujourd'hui, si vous voulez aussi acheter en ligne, eh bien, la moyenne d'âge est beaucoup plus jeune.
Là,
25-34 ans. Et hommes et femmes confondus. Et là, dans ces cas-là, ça devient plus accessible.
Justement, vous travaillez aujourd'hui avec une vingtaine de galeries, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Vous avez l'ambition de travailler avec toutes les galeries en France, mais pas seulement?
Oui, à l'international également. Toutes les galeries d'art professionnelles qui commercialisent des œuvres d'art à travers le monde.
Jean Moreau, notre coach.
L'application est gratuite, c'est ça?
Tout à fait.
Et votre modèle économique à terme, donc, ça sera de prendre une commission sur les ventes que vous générez?
Tout à fait. Des frais de transaction lors de chaque vente à travers l'application.
Donc c'est gagnant-gagnant pour les artistes aussi, pour tout le monde, quoi. C'est un concept vertueux.
C'est parfaitement dit.
On reste ensemble et on continue à parler art aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27. Europe 1.
Et on va aller les visiter, tiens, ces galeries en ligne. C'est possible, c'est ce que propose Artistix pour l'art contemporain. A tout de suite.
On parle d'art cet après-midi dans La France Bouge. Pensez-vous que l'art est accessible à tous? Et si ce n'est pas le cas, comment faire pour qu'il le devienne? Vous avez des idées, des questions pour nos invités? Dites-le nous en nous appelant au 3921. Vous pouvez également nous écrire via Twitter, @Europe1Raphaël.
Et si plutôt que courir les galeries, elles venaient à nous? C'est une bonne idée, non?
Oui, c'est pas mal ça.
Bonjour Sonia Rameau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice d'Artistix. Votre start-up est née en 2013. Quelle était l'idée? Mettre en lien justement directement les amateurs d'art et les artistes?
Absolument. Rapprocher l'amateur d'art et le collectionneur de l'artiste.
Et comme ça, le dialogue pouvait s'établir?
Absolument. L'idée, c'est vraiment de présenter le travail des artistes sur le web, à travers notamment des vidéos que nous faisons dans tous les ateliers des artistes.
Qu'on voit en ce moment sur Europe 1.fr.
On va les interviewer, on va les filmer en train de travailler, on va filmer les œuvres d'art qui sont dans leur atelier au moment où on y est, et on fait des tournages d'une demi-journée qui donnent une vidéo professionnelle de 5 minutes. Et donc pour chaque artiste qui a été sélectionné sur Artistix, nous présentons une vidéo. Nous présentons aussi, pour la sculpture notamment, et les œuvres en volume.
Des vidéos à 360.
Des vidéos à 360 degrés pour une grande partie des œuvres. Pas encore tout, on y va petit à petit. Et donc, vous pouvez tourner autour de l'œuvre et quasiment la voir comme si elle était dans une galerie ou en réel.
Et puis, vous dites un Français sur quatre envisage d'acheter de l'art contemporain.
Absolument, tout à fait, oui.
Parce que ça lui plaît,
parce qu'il y a un engouement,
il a envie de posséder quelque chose créé par un artiste.
Je pense que la possession est un enjeu important, mais c'est loin d'être le premier. Je crois surtout que les gens ont envie de découvrir de nouveaux artistes, de se faire plaisir et d'acheter des œuvres qui vont les aider à vivre mieux. Parce que je suis persuadée, et on est persuadé chez Artistix, que vivre entouré d'art, c'est vivre mieux.
Le marché en ligne dont on parlait tout à l'heure, il a quoi comme atout? Il est plus transparent pour l'acheteur aujourd'hui?
Je pense que c'est le principal atout qu'il a, effectivement. Il est
Pourquoi
plus transparent parce que, en fait,
parce que on
a une,
dit,
on a
départ,
une obligation.
Le prix est affiché.
Voilà, exactement. Les prix sont affichés. On va vous donner un maximum d'informations sur les œuvres d'art. Les tirages, par exemple, pour un bronze ou pour une photo, donc le tirage que vous allez acquérir. Vous avez énormément d'informations à travers des articles. Vous pouvez voir l'œuvre telle qu'elle est, donc à travers ses 360 degrés. La transparence est extrêmement, extrêmement importante. On va proposer aussi de vous fournir un certificat d'authenticité signé par l'artiste. Mais ça, on le fait tout comme les galeries physiques, bien sûr. Donc ce besoin de transparence est très important.
Et pourtant, les gens préfèrent voir l'œuvre de leurs propres yeux, non ?
Toujours.
Ça reste.
Mais je pense qu'on va essayer de prouver le contraire. Et vu les ventes qu'on fait, notamment à l'étranger, avec des gens qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissent pas forcément les artistes que nous représentons, on prouve qu'il est possible d'acheter des œuvres sans les avoir vues et sans les avoir touchées, grâce notamment aux vidéos 360 degrés. Et on met en place très bientôt, donc on est en phase de test, des scans 5D pour la peinture. Ce qui va permettre
d'entrer dans la toile,
dans la matière, dans le relief. C'est une technologie qui a été développée par une équipe d'ingénieurs à l'OPFL à Lausanne, et nous travaillons avec eux pour essayer de développer ces scans 5D. Donc c'est la nouveauté sur le site. Mais comme vous le disiez, certaines personnes ont envie de voir les œuvres, donc on leur propose de visiter les ateliers des artistes directement. Donc on organise des visites privées d'ateliers, mais il faut bien évidemment que vous soyez à peu près au même endroit que la personne, l'artiste. Et comme on a plus de 50% de nos ventes à l'étranger, c'est pas toujours possible, mais on organise ça assez fréquemment. Voilà.
Cyrielle, on parlait des achats justement. L'achat d'une œuvre, ça représente quel pourcentage de personnes aujourd'hui en France qui achètent ?
Alors, selon un sondage Opinionway sur les Français et l'art contemporain réalisé en 2017 sur un échantillon de 1023 personnes, pour vous, Artistix, en partenariat avec Connaissance des Arts, eh bien, un Français sur quatre envisage d'acquérir un jour une œuvre.
Et ces achats d'œuvres, 16% des Français ont acheté directement ?
Exactement, à un artiste, 7% des gens, soit à une galerie d'art, 4%, soit dans une brocante ou encore un vide-grenier, 4%, ou même en ligne, 4% également.
Et alors, j'ai vu qu'on pouvait aussi, Sonia Rameau, acheter une sculpture, par exemple, qu'elle arrive dans notre salon et que finalement, on se dit... J'ai peut-être mal choisi, c'est pas ça que je voulais. Vous la reprenez ?
Absolument. Donc l'idée, c'est que vous allez choisir une sculpture, une peinture, une photographie sur le site. Elle ne vous plaît plus ou elle ne correspond pas exactement à ce que vous avez vu ou à l'idée que vous en étiez faite. Et du coup, on va vous envoyer l'œuvre. Et dans les 15 jours, vous pouvez nous appeler ou nous prévenir et on vient rechercher l'œuvre à nos frais. Donc en fait, on vous remboursera l'œuvre, le port et les frais de retour. Voilà.
Que dit notre coach, Jean Moreau ?
Moi, j'ai compris que c'était un modèle un peu différent d'art delivery de Leïla, puisque vous ne faites pas d'achat, stockage, revente. Hein, vous faites directement de l'expédition depuis l'atelier de l'artiste.
Absolument. Donc, en fait, on fait partie du premier marché, sur le marché de l'art. Et donc, l'œuvre va partir directement de l'atelier de l'artiste. Elle va être conditionnée chez lui, parfois chez nous, parce qu'on en a quelques-unes qu'on peut montrer dans nos bureaux. Et en fait, on va l'envoyer directement au collectionneur ou à l'amateur d'art. Ça va arriver chez lui. Donc, on s'occupe de la logistique de A à Z. Donc, et du processus de vente de A à Z aussi. Voilà.
Vous êtes une sérielle start-upeuse, non ? Un petit peu, Sonia Rameau, on peut dire ça comme ça, parce que vous avez fait plein de choses avant de vous intéresser à l'art. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi l'art ? D'un coup.
Pourquoi l'art ? Alors en fait, effectivement, ça fait 20 ans que je travaille dans le monde du web et que j'ai aidé contribué à développer quelques startups internet, notamment notrefamille.com qui maintenant s'appelle Philae et cadeau.com. Et en fait, l'idée, c'était que je faisais beaucoup de sculptures, donc depuis 20 ans, je pratique la sculpture et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'artistes qui avaient énormément de talent mais qui ne savaient pas du tout promouvoir leur travail. Et je me suis dit que, bon, avec 20 ans d'expérience dans le web, peut-être il y avait quelque chose à faire pour allier le web et l'art. Et donc, ça a été l'idée d'Artistix. Je me suis aussi rendu compte qu'aux États-Unis, il se passait beaucoup de choses et que probablement ça arriverait sur le marché français d'ici peu et qu'il fallait qu'on soit les pionniers sur ce marché. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour développer l'art, notamment sur le web.
On va en parler dans un instant, si vous le voulez bien. On reste ensemble aujourd'hui sur Europe 1 et on parle d'art.
Il est 13h37.
Europe 1.
39-21, Twitter. On attend évidemment vos témoignages, vos questions à nos invités. C'est La France qui bouge, avec vous.
Dans La France bouge cet après-midi, on parle avec beaucoup de passion autour de cette table d'art. Et vous en parlez donc avec vos invités, Raphaël Duchemin.
Nous sommes avec Leïla Zéro, qui est responsable de la collection Art Delivery proposée par l'École des Beaux-Arts de Nantes. Carole Brassier, cofondatrice d'Artifexio, Shazam de l'art urbain, en tout cas en devenir. Et Sonia Rameau, fondatrice d'Artistix, start-up parisienne fondée pour connecter les amateurs d'art et les artistes. C'est vrai qu'on parlait de manière assez passionnée.
Animée.
On continuait à se demander si finalement c'était simple d'aller à la rencontre de l'art, de pousser la porte d'une galerie, d'aller à la FIAC. sans savoir finalement combien les œuvres vont coûter. C'est pas évident quand on n'est pas un véritable collectionneur, quand on n'a pas l'habitude, Carole Brassier.
Alors oui, je pense, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Aujourd'hui, pour aller à la FIAC, c'est vrai que c'est pas donné. Je crois que l'entrée, elle est à 38 euros.
38 euros, oui. Oui.
Nous, notre ambition, grâce à Artifexio, c'est de permettre de reconnaître justement les œuvres. Quand on est face à une œuvre de Kessaring ou Jean-Michel Basquiat, c'est pas simple de dire « je ne sais pas qui c'est, qui c'est, combien ça coûte ». Voilà, c'est pas forcément évident.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sonia Rameau, je peux entrer dans une galerie, me dire « tiens, j'adore cette toile, par exemple », et ne pas oser demander le prix parce que je ne sais pas si ça va être 4000 euros ou 200 000.
Effectivement, je pense que parfois, la démarche peut être très, très, très intimidante. Et les prix ne sont pas forcément affichés, il n'y a pas forcément le nom de l'artiste. Et donc, en fait, il faut avoir le courage d'aller poser la question au galeriste, lui demander combien ça coûte. Et on a parfois l'impression qu'on va passer pour quelqu'un d'ignorant. Et donc, je crois que ça, c'est ce que le web apporte. C'est vraiment une forte démocratisation de l'information vis-à-vis
parce
de
l'art. Parce que cette fameuse transparence, fait, on connaît le prix, on connaît le nom de l'artiste, on sait ce qu'il vaut.
Exactement, tout à fait. Et aussi, on a beaucoup d'informations le concernant.
Leïla Zerouki, je vois que vous êtes pas tout à fait d'accord, ou peut-être que vous avez des choses à ajouter sur ce point-là.
Je suis tout à fait d'accord. Je pense que même que culturellement, en France particulièrement, on n'a pas cette agilité, je dirais, d'aller ouvrir la porte d'une galerie. Mais je pense aussi que c'est toute une éducation à faire auprès des enfants, à l'école, justement, où l'art peut peut-être s'apprivoiser un peu plus là, au niveau des codes, parce qu'il y en a quand même, et c'est là qu'on peut intervenir aussi.
On fait cette éducation pour la musique, on l'a fait pour la lecture, on pousse la porte d'une librairie sans problème, on devrait pouvoir faire la même chose dans les musées et dans les galeries.
Oui, je pense qu'on devrait pouvoir faire la même chose, oui, bien sûr. Mais tout le monde ne peut pas effectivement le faire.
Cyrielle.
Oui, je vous vois parler de ça. Alors j'ai envie de vous dire qu'on a peut-être des idées reçues parce que quand on regarde les chiffres, il y a près d'un Français sur deux qui a déjà visité un lieu ou un événement en lien avec l'art contemporain. Donc c'est vrai qu'on pense souvent qu'on n'a pas la sensation de pouvoir y aller parce que c'est plus fort que nous. Mais finalement, même si on n'achète pas, les curieux sont là.
Jean Moreau, une question de notre
Une question d'ordre géographique. Paris, c'est une place forte de l'art contemporain. C'est un bon endroit pour lancer une start-up dans ce secteur ou ça se joue plutôt ailleurs maintenant, ces dernières années?
Nous, on est à Nantes.
Non, mais la France,
oui, on est deux Nantais.
La France est toujours référente en la matière ou ça se joue aussi oui. Un peu à l'étranger?
Je pense que oui.
Sonia Rameau.
Je pense que le marché se joue beaucoup aux États-Unis, en Chine, en Angleterre et ensuite en France. Et donc, il faut mettre plein d'initiatives en place pour que la France reprenne la place qu'elle avait, qui était très importante dans les années 50. Mais vous allez peut-être.
Est-ce que les réseaux sociaux vous aident beaucoup? Parce que j'ai regardé un petit peu sur Internet, bien évidemment, je me suis renseignée pour ce dossier, et je me rends compte que Internet, que ce soit même Instagram, aide beaucoup à développer cette culture, en fait, de l'art, qui n'existait pas forcément avant, chez les gens qui sont pas amateurs d'art nécessairement.
Vous avez tout à fait raison, et Instagram est vraiment le premier réseau dans le monde de l'art. C'est celui qui est le plus plébiscité, et en l'occurrence, je crois que c'est un réseau qui n'utilise quasiment que de la photo, donc de l'image, et donc on peut voir des œuvres extraordinaires, et là on ne connaît pas forcément les prix, on apprécie l'œuvre pour ce qu'elle est, et c'est assez extraordinaire, et du coup il y a beaucoup d'émulation autour de tout ça.
Et on peut directement dialoguer avec certains artistes sur Instagram, leur envoyer un message, leur dire j'adore ce que vous faites, et commencer justement à s'intéresser à la manière dont ça a été fabriqué, réalisé, le pourquoi. Ce sont des choses qui sont importantes aussi, comprendre finalement l'univers de l'artiste, c'est un peu ce que vous faites à votre manière, toutes les trois. Nous aider à entrer dans cet univers-là, Leïla.
Oui, tout à fait. On vous apporte sur un plateau.
Restez bien près du
je
micro,
dirais, sinon on vous entend sur plus. Vos murs. On vous apporte un travail, une recherche que vous pouvez contempler pendant quand même quelques temps, 3 mois.
Oui, 3 mois. Ça.
Donc ça permet aussi de créer un lien avec l'œuvre.
On se familiarise avec l'œuvre, mais aussi avec l'artiste, et on est peut-être tenté d'aller voir plus loin.
Oui, quand on livre l'œuvre et qu'on l'accroche, on amène aussi des informations sur l'artiste, sur son travail.
C'est-à-dire, donnez-moi un exemple.
On amène une fiche qui recense une bio de l'artiste, son site internet s'il l'a. Voilà, et donc ça permet aussi de donner envie d'aller en voir un peu plus sur son travail.
Ça reste un investissement aujourd'hui, l'art. C'est, les Français adorent la pierre, par exemple, ça on le sait, hein, acheter un appartement. On peut encore investir de manière intéressante dans l'art ? Sonia,
oui.
Carole.
Aujourd'hui, l'art peut être un investissement. Ça peut rapporter 7 à 8% par an, une œuvre d'art. Donc oui, tout à fait. Je me permets juste de rebondir par rapport à l'histoire d'un artiste ou d'une œuvre. Ça change toute l'appréciation qu'on peut avoir d'une œuvre d'art. Et ça, on peut tout à fait l'avoir sur le web ou à travers une application. Savoir comment l'artiste travaille, comment est-ce qu'il a élaboré son œuvre, ça change tout. Toute la perception qu'on peut avoir vraiment de l'œuvre que l'on a en face de soi. Et ça, on peut l'avoir en galerie, mais également sur le web.
Cyrielle ?
C'est vrai que ce qu'on achète, c'est souvent par rapport à une émotion. Donc en effet, acheter cette œuvre-là suscite de l'émotion. Et c'est vraiment en majorité, je crois que c'est 88% des gens qui achètent par rapport à cela. Et non pas nécessairement par rapport à l'artiste et du fait que dans le temps, l'œuvre peut prendre de la valeur.
L'émotion grâce à l'art. Merci à toutes les trois d'être venues nous aider à démocratiser le travail de nos artistes. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Il est 13h47.
Europe 1.
Elle est née en 1986. Ses produits sont sortis ces derniers jours et pour cause, le véritable Cherbourg et l'entreprise qui va bien. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, elle va vous plaire, Céline, ah oui. C'est le véritable Cherbourg. Bonjour Charles Yvon.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes le PDG de cette maison créée par votre père en 1986. Il était photographe, mais il a décidé de changer de vie, de revenir chez lui, à Cherbourg, à cause ou grâce, hein, je ne sais pas comment vous allez dire, au film de Jacques Demy qui le fascine. Vous reconnaissez évidemment la musique de Michel Legrand.
Bien sûr.
Les parapluies de Cherbourg. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Ça a été vraiment un déclic, ce film ?
Alors, il y a eu le film et le fait qu'il soit photographe. Il voyageait dans le monde entier. Et on lui disait, Cherbourg, vous venez de Cherbourg, les parapluies de Cherbourg. Il y avait un lien qui se faisait. Et il n'y avait pas de marque de parapluie vraiment en soi. Et il s'est dit, je vais revenir à Cherbourg, créer une manufacture et fabriquer une marque avec une gamme complète de parapluies.
Les parapluies, Cherbourg, c'est une évidence aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est une évidence, oui. C'est une évidence parce qu'on fait des parapluies résistants et élégants et qui correspondent au code de maintenant où on veut des produits qui durent dans le temps.
Ce qui est assez étonnant, c'est que quand on remonte un petit peu et qu'on regarde l'histoire de votre famille, vous n'étiez pas du tout dans le parapluie, vous étiez dans la manufacture de cuir. Donc c'est vraiment un tournant pour votre père.
Oui, tout à fait. Alors les ancêtres étaient tanneurs de cuir à Cherbourg depuis 1800. Donc ce qui remonte un petit peu de père en fils. Et à la génération de mon papa, il a créé un peu en parallèle les parapluies de Cherbourg. parce que bon, le cuir, depuis quelques années, battait un petit peu de l'aile. Et c'était retrouver un produit typique, une marque de parapluies.
Vous vous lancez, enfin il se lance, et vous ensuite dans la fabrication de ces parapluies, ils sont faits main, ils sont toujours fabriqués à la main. Toutes les pièces sont montées les unes après les autres, que ce soit le manche, les baleines, le tissage.
Oui, alors toutes les étapes sont faites à la main, alors il faut compter environ...
Ils sont avec nous hein, ces parapluies, vous pouvez les voir, y compris pour les superstitieux dans les studios d'Europe 1, ils sont
J'ouvre
couverts.
Le mien.
Avec le petit bruit qui va bien.
Donc il y a à peu près 90 étapes pour fabriquer un parapluie. Et toutes les étapes sont faites à la main, comme à l'époque, dans la manufacture qui se situe à Cherbourg, en plein cœur de ville.
Vous êtes sur les quais ?
Sur les quais, voilà. Donc un bâtiment haussmannien qui est sur les quais, où la fabrication, on a aussi un musée. On est labellisé qualité tourisme, on fait des visites d'entreprise. Donc on montre ce savoir-faire, que ce soit à des écoles... À des personnes qui viennent en visite dans la région.
Il y a quand même quelques grandes maisons qui sont anciennes, je pense évidemment à Pigagnol par exemple, mais beaucoup ont disparu, beaucoup de ces maisons qui fabriquaient des parapluies français ont disparu, notamment sous la pression de la concurrence asiatique. C'est quelque chose qui vous ne vous fait pas peur aujourd'hui, parce que vous êtes sur un autre marché.
Oui, c'est pas du tout le même marché. Il y a plusieurs millions de parapluies qui arrivent d'Asie tous les ans sur le territoire français, que l'on doit d'ailleurs après mettre jeter et puis s'organiser pour gérer cette pollution. Nous, on a pris un peu le pied inverse. On fabrique en France des parapluies qui se transmettent de génération en génération.
Vous les réparez également?
On les répare également. Et pour vous donner une ordre d'idée, il y a plusieurs millions de parapluies qui arrivent tous les ans et on n'en fabrique même pas 10 000 par an.
Vous dites dans la rue, on reconnaît le véritable Cherbourg. À quoi? Il y a une marque de fabrique, déjà il y a le logo.
Oui, alors il y a plusieurs signes distinctifs pour reconnaître le véritable Cherbourg en ville. Déjà le logo est brodé sur la toile. Ouais. On retrouve également, comme vous avez vu tout à l'heure, quand vous avez ouvert le parapluie, il y a deux lanières pour fermer le parapluie. Et ça c'est un signe distinctif d'avoir les deux lanières sur le parapluie. On est le seul à avoir deux lanières, il n'y a pas de scratch, il n'y a pas de bouton de pression.
Pour le bruit?
Pour le bruit et aussi pour éviter de chercher le scratch ou le bouton de pression. Là on glisse, c'est très simple. Le galbe aussi du parapluie est très travaillé.
Et puis, vous avez des brevets déposés.
Et il y a des brevets sur la marque, des dessins et modèles, bien sûr, en fonction des modèles.
Et puis, en 2011, il y a eu un brevet un peu particulier pour le parapactum, c'est ça?
Oui, alors il y a eu le parapactum en 2011. Alors là, c'est un autre marché totalement. C'est là un parapluie de sécurité donc, voilà, qui équipe les gardes de sécurité rapprochée. Donc, on est voilà, plus dans le monde de la sécurité là, sur ce produit. On est moins dans le parapluie de tous les jours parce que le parapluie fait 2,5 kg. Donc, pour l'utiliser tous les jours, c'est un petit peu compliqué. Pour un garde du corps, il n'y a pas de problème. Mais c'est un brevet que l'on a fait, c'est pour montrer où est-ce qu'on peut aller. Et là, le parapluie est fabriqué et matière première à 90% en Normandie.
Jean, notre coach.
C'est super, c'est de la production locale, des savoir-faire régionaux. Vous avez fait le choix d'une production raisonnée, vous en produisez 10 000 à 15 000 par an, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Pour quelle raison? Pour bien maîtriser la qualité et pour,
Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense que pour maîtriser la qualité, on peut la contrôler avec plusieurs tailles d'entreprise. Là, sur les parapluies, 10 000 pièces. Bon, là, ça va en augmentant, parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux dans l'entreprise actuellement.
Vous êtes combien?
Là, on est 17 personnes. Donc, ça reste une petite manufacture, tout compris avec les vendeurs, dans toute la structure. Donc, il y a 9 personnes en production. Ce choix de quantité, voilà, il est resté sur 10 000. Je pense qu'on peut doubler, mais voilà, c'est les objectifs déjà de l'entreprise.
C'est le véritable Cherbourg et je précise que vous travaillez désormais avec l'Élysée, aussi avec d'autres présidences et royaumes. C'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Jean qui était notre coach.
Merci à vous.
Et nous on se dit à demain.
À demain, c'était Raphaël Duchemin sur Europe 1 et dans un instant on retrouve Christophe Ondelatte.